pour 2 euros de plus à la galerie Doria Pamphili, l'une des plus belles collections de peintures de Rome. C'est là qu'on trouve le portrait d'Innocent X par Titien, les deux célèbres humanistes de Raphaël et trois grands Caravage. On peut accéder aux appartements privés. La chose est en général d'un intérêt plus que relatif. Les rideaux véritables ne valent jamais tout à fait les draps peints. Les détails du réel manquant de la profondeur des détails des tableaux. Les gros cordons tressés qui empêchent d'entrer dans les pièces, produisant un effet de profondeur à peine supérieur à celui de la perspective. Mais c'était l'occasion de se reposer un peu les yeux. L'accrochage des tableaux au palais Doria Pamphili étant spectaculairement mauvais ou bizarrement optimisé. Tout avait été fait pour remplir au mieux l'espace. Quatre galeries disposées en carré au premier étage, autour d'une cour intérieure plantée d'orangers. Du coup, on ne voyait à peu près rien. Tout était mélangé, inscrutable, opacifié. On avait mis un chef-d'œuvre juste en dessous du plafond, un Guy d'Orény à l'emplacement où il recevrait le maximum de reflets, un Caravage de jeunesse derrière un sarcophage antique. Paul Venn remarquait autrefois que les bas-reliefs de la colonne Trajane voisine n'étaient pas faits pour être vus. C'était un art purement somptuaire. Ce qui importait, ce n'était pas le détail de la campagne contre les Daces, mais le fait que l'empereur, pour commémorer sa victoire, ait décidé d'y mettre le prix. La colonne Trajane, c'était comme un souvenir sur lequel on n'aurait pas enlevé l'étiquette du prix. Pire, on l'y aurait gravé. La chose est plus déstabilisante avec la peinture, dont on s'est habitué à reconnaître, passé son évident rôle de fétiche, une certaine valeur d'usage. On sait que c'est cher, précieux, inatteignable, mais on trouve ça joli quand même. On est sincère avec les cartes postales qu'on se procure à la boutique de souvenirs. À demi-sincère, on est passé un peu vite devant l'original, mais on serait vraiment heureux d'en accrocher un bout sur son frigo. Et c'est en cela justement que la galerie Doria Pamphili est déstabilisante. La peinture, surabondante, se remet à jouer le rôle archaïque d'un décor somptuaire. Il y a tellement de tableaux que ça pourrait être des teintes choisies sur catalogue. Ces jolis ocres, ce sont des Filippo-Lippi. Ce carrage vert et rafraîchi irait bien dans cette demi-lune. Le concept de musée m'est apparu soudain comme la purification grotesque de cette manifestation sauvage, aristocrate et primitive, du goût pour la peinture. C'était comme cela, certainement, que la peinture devait être montrée, en désordre et avec une sorte de joie obscure et chaotique, comme une grande éclaboussure d'image et l'équivalent, dans les intérieurs romains, des fontaines ruisselantes des places. La contre-réforme avait ici triomphé avec une énergie barbare. J'ai repensé à l'élégante interface de Netflix, à cette fabrique d'images qui est sans doute l'équivalent contemporain de la galerie Doria Pamphili. Je me suis demandé alors si j'arriverais à m'endormir ici, dans ce palais du binge-watching, dans l'antre rougeoyante de la contre-réforme. Quelque chose du destin des images s'était bien joué ici, il y a 500 ans. La contre-réforme avait clairement vaincu l'iconoclasme, l'avait terrassé à la gorge, sentait tout autour de moi passer de gros bouillons d'images. Mais arrivé devant un sacrifice d'Abraham ou une Judith et Holoferne, j'ai repensé aussi à ces scènes de décapitation de l'État islamique qui ont jeté leur sombre lueur orangée à différents endroits du monde il y a quelques années depuis les écrans impassibles, des chaînes d'infos en continu. L'iconoclasme avait peut-être alors opéré un retour paradoxal. Je venais d'entrer dans les appartements privés et j'étais devant un lit à baldaquin qui s'entr'ouvrait sur une fresque du songe de Jacob. J'ai eu à peine le temps de me demander comment on pouvait dormir au milieu de ce rêve éveillé, quand j'ai repéré, sur la table de nuit, la fleur de Coleridge d'une petite boîte de somnifères. La gardienne de la salle a confirmé que la princesse dormait bien ici deux fois par semaine. Je n'ai pas été surpris ainsi par l'aspirateur robot dans la salle à manger. C'était à peu près le seul endroit au monde où il s'agissait d'un achat cohérent et non d'un caprice futuriste. Ce n'était donc pas l'anachronisme qui m'avait surpris quand j'avais vu les somnifères. C'était un sentiment plus vague de déclin, d'échec, d'épuisement occidental.